Alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Genèse, chapitre 3, les versets 8 à 19. Genèse, chapitre 3, versets 8 à 19. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix depuis le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, et tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été pris, car tu as poussière et tu retourneras dans la poussière. » Alors, on avait parlé que c'est la deuxième partie, puisqu'on l'avait donné un petit peu la semaine dernière, mais on avait dit que, vu que je n'avais pas eu le temps de le finir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu réviser ce qu'on a vu, et pour en arriver au troisième point qu'on n'avait pas vu. Alors, on avait intitulé, le message s'intitulait « Le procès divin d'Adam et Ève ». C'est vraiment, c'est comme s'il les passe en procès. Alors, la manière dont le texte est divisé, les coupables interrogés, versets 8 à 13, les coupables inculpés, versets 14 à 19, et les coupables informés, verset 15, parce que le verset 15, c'est vraiment le verset où Dieu informe Adam et Ève de la solution qu'il va, c'est la solution, mais prophétiquement, il annonce dans le verset 15 qu'il va envoyer un rédempteur, un sauveur, le Messie Jésus-Christ. On va, ce matin, on était rendu là, mais je veux quand même faire une révision de ce qu'on a vu jusqu'ici, de manière à ce que qu'on comprenne bien l'ensemble du texte. Alors, on avait vu dans nos leçons précédentes comment le serpent avait réussi à faire tomber Adam et Ève dans la désobéissance et dans la rébellion contre Dieu. On avait observé les tactiques de Satan dans la tentation de nos premiers parents. Et quelle était-elle, cette tactique-là? La première, c'est que Satan est assez intelligent pour ne pas nier que Dieu a parlé. Il reconnaît que Dieu a parlé parce qu'il dit, « Dieu a-t-il réellement dit? » Alors, il reconnaît que Dieu a parlé, donc c'est une tactique qu'il utilise de manière à reconnaître que Dieu a parlé. Et ensuite, sa tactique, c'est d'ajouter à la parole de Dieu. Et ensuite, il la nie. Ensuite, il questionne les motifs de Dieu. Autrement dit, il est en train de leur dire, « Dieu ne vous a pas permis de prendre cet arbre-là, parce que si il vous l'aurait permis... » C'est comme s'il voulait accuser Dieu de les avoir privés de quelque chose qu'il avait droit, et c'est comme presque une accusation de donner de l'injustice au Seigneur. Non seulement il questionne les motifs de Dieu, mais il questionne aussi son caractère. Parce qu'on va dans la question même, il se trouve à questionner le caractère de Dieu. Et il termine sa tactique de tentation par offrir des bénéfices. Ben non, tu mourras pas. Tu vas voir, tu vas être comme Dieu, tu vas connaître le bien et le mal. Alors, il donne des bénéfices à la fin. Et c'est ce qui a fait que Ève a tombé. Et après avoir tombé, elle a offert du fruit à son mari et en a mangé. Et là, le premier couple humain est tombé dans le péché. Mais comme on se disait, les autres semaines, qu'on en discutait après le culte, est-ce que Adam et Ève étaient pleinement conscients de l'ampleur, des conséquences de la chute? Parce que en chutant, tous les êtres humains qui viendraient à sa suite seraient automatiquement, viendraient au monde pécheur, avec tout ce que le péché a amené dans la vie des hommes, les guerres, les maladies, et l'exploitation, la violence, et on pourrait allonger la liste très, très, très longuement. Alors, on sait que l'objectif du malin, c'était vraiment de s'interposer entre l'âme de l'homme et son Créateur, et chercher à détourner son cœur de Dieu, et de diriger la confiance qu'il avait en Dieu, de l'amener vers lui, que les gens lui fassent confiance à lui. Alors, il voulait usurper la place du Seigneur, rendre l'homme assujetti à sa volonté, et il a réussi. Parce que tous les êtres humains qui viennent au monde après la chute d'Adam et Ève sont automatiquement assujettis à la volonté de Satan, comme le Nouveau Testament nous le dit. On est esclave de Satan tant qu'on n'est pas régénéré, tant que Dieu n'a pas fait une œuvre de grâce dans notre cœur. Et, bien entendu, il substitue sa parole à la parole de Dieu, et il questionne Dieu lui-même et les bontés de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit que les trois principes que Dieu faisait, que Satan faisait avec la parole? Les trois grandes choses que Satan fait avec la parole de Dieu. Première chose, il ajoute. Il met des choses dans la parole de Dieu qui n'est pas là. Il enlève et il altère. C'est ces trois tactiques fondamentales. Ça a marché au début, ça s'est... Durant tous les siècles, il y a eu des hommes dans des sectes ou dans toutes sortes de choses, des faux bergers qui ont utilisé les mêmes tactiques que le malin, dans le fond, avec les mêmes buts, ajouter la parole de Dieu, enlever la parole de Dieu ou altérer la parole de Dieu. Alors, quelle était la faute fondamentale de Ève concernant sa relation avec le serpent? La première, c'est très certainement celle d'avoir engagé une conversation avec lui. Alors, cette conversation l'a entraîné dans ce qu'on avait décrit la semaine dernière comme étant des marches descendantes. Et une marche qui descend, quand je descends au sous-sol ici, là, je descends une marche à la fois, mais elle, en entreprenant une conversation avec Satan, il y a vraiment à l'entreprendre toute une série de marches descendantes dans sa désobéissance. La première marche, ça a été la curiosité. Satan lui a fait voir, « Mais non, tu ne mourras pas, tu vas être comme Dieu. » Alors, comme la curiosité était éveillée. La deuxième, ça a été le vacillement. Deuxième marche, à partir du moment où elle savait que Dieu avait dit, « Si tu en manges, tu mourras certainement. » Le fait de vaciller, c'est que, il me fait voir quelque chose, puis... Vaciller, ça veut dire tu peux tomber sur un bord, tu peux tomber sur l'autre. Autre marche qui descend encore un petit peu plus bas, c'est le mécontentement. C'est comme si Dieu lui avait pas assez donné à elle et à son mari les bénédictions innombrables qu'ils ont reçues dans le jardin d'Éden. Elle commence à être mécontente de son sort. Elle voudrait avoir plus, alors qu'elle avait absolument tout. Ensuite, une autre marche qui descend, l'ambition. Elle se met à être ambitieuse et le serpent lui avait dit « Vous serez comme Dieu ». On voit dans le texte, dans certaines versions, ça dit « Vous serez comme des dieux ». Mais le mot hébreu, c'est « Elohim ». Elohim, c'est un nom hébreu. La termination « im » veut dire le mot, c'est « Dieu » au pluriel. Beaucoup de versions vont dire « Dieu » qu'un D majuscule, en faisant référence à « Elohim », le Dieu trinitaire. Pourquoi il est au pluriel? Parce qu'il y a trois personnes en Dieu. Alors, mais il y en a qui ont traduit Elohim par des dieux, des dés, avec un petit dé. Moi, je trouve que ça ne donne pas justice au texte. C'est vraiment qu'elle voulait être comme Dieu, connaître la différence entre le bien et le mal. Donc, l'ambition, une autre marche a été vraiment sa chute personnelle, parce qu'à un moment donné, elle a tombé dans le panneau du malin. Et finalement, le péché, comme on a vu, ça, c'est une caractéristique du péché qui était à cette époque-là dans le Jardin d'Éden, qui existe encore. La tendance de l'homme à entraîner quelqu'un dans sa suite quand il tombe dans le péché. Alors, non seulement il tombe lui-même, elle tombe elle-même, mais elle veut faire tomber Adam en même temps. Alors, on voit les marches. C'est vraiment comme des marches descendantes. On apprend à l'intérieur de ça que le péché est contagieux. Si on prenait l'ensemble de tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau, on se rend compte que quand l'homme tombe dans le péché, peu importe les circonstances, un péché en entraîne un autre. Qu'on prenne l'exemple, par exemple, de David. Son général était parti en guerre, il aurait dû être allé en guerre avec lui. Il était resté chez lui, il était monté sur son toit, et là, il regardait en bas, je ne sais pas comment c'est arrangé physiquement, là, mais en tout cas, il semble qu'il regardait en bas. Qu'est-ce qu'il a vu? Une femme qui se baignait, Bathsheba. Et là, il a tombé dans le péché. Mais est-ce que son péché était juste ça? Ça l'a entraîné dans d'autres péchés. Là, à un moment donné, il a essayé de faire venir son mari. Il a essayé de lui faire boire pour qu'il aille coucher avec sa femme pour que, si la femme tombait enceinte, que ça ait l'air que ça venait de son mari. Et le gars, il a dit non, moi, mes amis qui sont à la guerre là-bas, ils n'ont pas la chance de coucher avec leur femme. Moi, je suis venu ici, mais je ne coucherai pas avec ma femme. Alors, il a perdu son prétexte. Et là, il a envoyé une lettre. Fantasme. Le péché, hein? Il a envoyé une lettre par les mains du gars lui-même pour retourner. Il dit, tu donneras ça au général là-bas. Le général, il rouvre la lettre et David avait donné le commandement, place-le à l'endroit qui est le plus dangereux dans la guerre. Fait qu'il le plaçait à l'endroit, dans le fond, c'était un meurtre. Il a commandé le meurtre. Alors, c'est vraiment, on voit un péché de pas être à bonne place, pas être à sa place au bon moment. Regardez, quand il a vu la femme, il aurait dû réagir tout de suite et pas... Non, il n'a pas réagi. Il a envoyé un serviteur, et là, il a tombé dans le péché. Il y a eu un enfant, l'enfant est mort. Et si on regarderait toutes les conséquences du seul péché de ne pas être à sa place, ça en entraînait d'autres. Alors, c'est contagieux, le péché. Ça l'amène, un petit péché l'amène un plus grand, et c'est toujours de même, de toute façon. Alors, on avait examiné, dans les semaines précédentes, qu'il y avait eu comme une certaine sentence que Dieu avait donné à Adam et Ève. Et comment s'était-elle manifestée, cette tendance-là, cette sentence-là? C'était une sentence qui était officieuse. Parce que dès qu'elle a mangé, Dieu avait dit, si tu manges, tu vas mourir. Et dès qu'elle en a mangé, qu'elle a fait manger son mari, ils sont morts spirituellement, tous les deux. Et à quelque part, la sentence officieuse, c'est qu'ils se sont rendus, ils se sont cachés. Parce que le péché a cette tendance naturelle-là que de toujours vouloir se cacher et aussi de vouloir se cacher et d'avoir peur de Dieu, autrement dit. Alors, la sentence officieuse, pourquoi je dis pas officielle? Parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont nus puis ils cherchent à se cacher. Donc, c'était comme une sentence qui s'était, dès que Dieu l'avait dit, si tu fais ça, tu vas mourir, elle est morte tout de suite. Elle n'est pas morte physiquement, mais elle a entraîné la mort physique, elle a entraîné la mort spirituelle, parce que non seulement la mort spirituelle s'établissait dans elle et dans son mari, mais non seulement ça, mais la mort spirituelle, ça l'entraînait tout cela, la mort spirituelle de toute la descendance, et ça l'introduisait aussi la mort éternelle, donc si tu décèdes dans cet état-là, tu vas aller passer ta vie en enfer pour l'éternité. Mais on a vu que la sentence officielle est tombée plus tard. Alors, on va regarder ça. Les coupables interrogés, versets 8 à 13. L'interrogation, il y a comme un préparatif. Si vous passez en cours, on vous l'avait dit souvent, vous allez recevoir un subpoena. Vous allez être demandé pour comparaître. Faites pogner quelque part dans une affaire de criminel, c'est sûr qu'ils vont vous envoyer une... Alors ici, il y a comme un préparatif. Genèse 3, 8, Ce qui est intéressant, c'est qu'ils étaient nus, ils se sont rendus compte, ils ont cherché à se cacher. Et tout de suite, là, ils ont entendu la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent. Encore, voyez-vous, déjà avec la ceinture qu'ils avaient voulu se faire, ils étaient déjà en volonté de se cacher de Dieu ou de cacher leur nudité. Et là, ils entendent la voix de Dieu. Normalement, avant la chute, il aurait dû être dans un état de délice. Ah, Seigneur, on... Et non, là, ce n'est pas ça qui se passe. Ils se cachent loin de la face de l'Éternel. Alors, la conscience de l'homme pécheur est troublée lorsqu'elle entend la voix de l'Éternel. Alors, la conscience, maintenant, va sentir sa culpabilité et elle va chercher à éviter la présence de Dieu. Alors, c'est quoi sa solution qu'elle trouve? La fuite et la cachette. Regardez n'importe quoi ce qui se passe actuellement, les enquêtes qu'il y a eu au Québec sur... Et quand vous entendez les interrogations des hommes qui se sont fait prendre à voler l'argent public, ils ne sont jamais coupables. Il n'y en a pas un, j'ai écouté une nouvelle, je ne sais pas combien de fois, et tous les coupables disaient, « Ben voyons, je suis accusé injustement. » Alors, le péché cherche toujours à se cacher, à se couvrir, à garder, il veut garder sa dignité aux yeux des autres, aux yeux des autres hommes. Mais voyons, je suis le maire de Montréal, voyons donc voir si le maire de Montréal va voler. C'est quand même un peu ça qu'il essaie de faire passer au public. Mais les chrétiens le savent mieux que quiconque, l'homme est pécheur, et quand la tentation se place devant lui, surtout quand il y a été question de millions, il y en a qui n'ont aucune hésitation. Et ce n'est pas quelque chose de propre au Québec. C'est partout pareil. Tous les pays. Il y a des pays qui sont encore pires que d'autres au point de vue de la corruption, mais il reste que c'est quelque chose qui est omniprésent dans tous les pays du monde. Alors, l'homme cherche à se cacher, à fuir. Alors, ici, fort probablement qu'Adam et Ève commençaient à comprendre que le moment du procès était arrivé. Qui devait répondre des actes qu'il avait faits. Alors, le juge, normalement, interroge les rebelles. Et regardez l'ordre. C'est très important de l'ordre que les Écritures présentent les choses. Parce qu'il interroge les rebelles, mais il y va dans un certain ordre. Qui avait tombé en premier? La femme. Donc, normalement, il aurait dû interroger la femme en premier. Pourquoi interroge-t-il l'homme en premier? Parce que l'autorité dans un couple est donnée à l'homme. Alors, il rend l'homme responsable et il s'adresse à lui en premier avant de prononcer son verdict. Alors, il rétablit en quelque sorte l'ordre correct de la chaîne d'autorité que le tentateur a essayé de renverser. On lit ce passage-là, l'interrogation d'Adam. Alors, il commence par Adam. L'Éternel Dieu appela l'homme. Il lui dit, « Où es-tu? » La plupart des commentateurs disent que le sens de « Où es-tu? » c'est pas qu'il ne savait pas ce qu'il était, puis il lui posait la question, « Où est-ce que t'es, là? » C'était vraiment plus dans le sens, « Regarde où tu es tombé. Où es-tu? » C'est comme si on voudrait dire à quelqu'un qui est rendu dans un état déplorable, « Regarde-toi donc dans l'état que tu es rendu. » Tu sais, c'est un peu dans ce sens-là. Alors, il dit, « L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. » Est-ce que normalement, en entendant la voix de l'Éternel, s'il aurait pas eu tombé, est-ce que ça y aurait fait peur? Non. Il dit, « Parce que je suis nu. » Donc, il reconnaît quelque part qu'il y a quelque chose de nouveau qui a été introduit dans sa vie. Et après ça, il dit, « Et je me suis caché. » Il reconnaît en partie sa faute, mais pas correctement. Verset 11, « Et l'Éternel lui dit... » Alors là, l'Éternel vient commencer à lui faire saisir un petit peu la portée de son péché. Il lui dit, « Qui t'a appris que tu étais nu? » Il dit, « Dans ton innocence, tu n'avais pas de problème avec ça. Maintenant, pourquoi en as-tu? » Et il dit, « Est-ce que tu as... » Alors là, il lui pose la question vraiment qui le met face à son péché. « Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Regardez bien la réponse de l'homme. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, j'en ai mangé. » Le réflexe, c'est toujours la faute de l'autre. L'homme, c'est une caractéristique depuis la chute et qui a demeuré au cours des siècles, et même aujourd'hui, quand on est mis face à un péché, on est toujours porté à mettre la faute sur un autre. Alors ici, c'est Adam qui veut mettre la faute sur Ève. Et qu'est-ce que vous croyez qui va arriver quand Dieu va interroger Ève? Elle va essayer de mettre la faute sur un autre, elle aussi, ça va être sur le serpent. Il faut remarquer cela dans ces passages-là, parce que c'est important. Alors, l'interrogation de Ève, au verset 13, l'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Alors, on a encore la même chose, au lieu de dire, « Oui, Seigneur, j'ai péché, je te demande pardon, je comprends pas pourquoi j'ai fait ça, etc., etc. » Non, c'est pas sa faute à elle, c'est le serpent. Alors, est-ce que le serpent est responsable du péché de la femme? Non. Le tentateur n'a fourni que l'occasion et l'opportunité de pécher. Adam et Ève ont librement décidé de désobéir à Dieu. La femme a pris l'initiative sans en référer à son mari et celui-ci a parachevé cette tragique histoire en décidant de participer à sa rébellion. Donc, les deux ont péché, mais ils aggravent leur cas en accusant autrui. Moi, si ça ne vous sonne pas une cloche dans notre manière d'agir face au péché, moi, ça m'en sonne une. Parce que quand quelqu'un est accusé de péché, que ce soit par qui que ce soit, on a toujours ce vieux réflexe-là de mettre la faute sur quelqu'un d'autre, plutôt que de dire « Oui, je suis en faute, je reconnais ma faute, et tu demandes pardon à Dieu, tu confesses ton péché comme Dieu nous le demande. » Quand on pêche, quand on est chrétien, on continue de pécher encore. Mais la façon, ce n'est pas d'essayer de s'excuser, la façon, c'est de reconnaître la faute et de demander pardon au Seigneur. Alors, les deux, en voulant mettre la faute sur autrui, ne font que aggraver leur cas. Alors, on est responsable de ce qu'on fait ou de ce qu'on omet de faire et on sera jugé en conséquence. Remarquez, quand vous allez voir des gens qui sont en problème un petit peu partout sur la terre, disons les criminels ou les délinquants, quand ils sont interrogés sur c'est la faute de qui? On ne nie pas que la famille, l'éducation, le milieu peut avoir une certaine influence sur ta destinée. Non, c'est pas ça. Mais on est porté à faire retomber nos mauvais choix, non sur notre propre responsabilité, mais sur notre arrière-plan. Nos parents. C'est pas ma faute, c'est la faute à papa. C'est pas ma faute, c'est la faute à maman. C'est pas ma faute, c'est la faute à mon frère. C'est la faute à ma sœur. Dans d'autres cas, on va dire, c'est pas ma faute, c'est mes gènes. J'ai un gène X, l'autre un gène Y, et l'autre pas. Alors, on cherche toujours à faire porter la responsabilité à quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. Ou, on va dire, c'est la société. C'est la société qui m'a rendu de même, voyons. Alors, au tribunal divin, c'est quelque chose qui est irrecevable. Dieu veut pas qu'on cherche à excuser nos comportements, excuser nos péchés. Il veut qu'on les reconnaisse et qu'on les confesse. Et là, il nous accorde le pardon. Parce que si on cherche toujours à l'envoyer à l'extérieur, à pelleter nos affaires dans la cour du voisin, le Seigneur n'accorde pas son pardon. Pour accorder le pardon, il faut que tu reconnaisses ta faute. Ce qui est intéressant et important à retenir dans la leçon qu'on est en train de faire sur Genèse 3, et c'est de le comparer avec ce que le Nouveau Testament nous dit. Qu'est-ce qu'on dit d'Adam? On dit qu'il est le premier Adam. Que les hommes, quand Adam tombait, tous les hommes tombaient avec lui et en lui. Mais qu'est-ce qu'on dit de Christ? Qu'il est le second Adam. Donc, comme les Écritures nous le disent dans Romains 5, versets 12 à 19, Ça dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel était la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce viennent d'un seul homme, Jésus-Christ. Voyez-vous, il est en train, dans Romains 5, il est en train de nous faire prendre conscience que les hommes sont tombés dans le premier Adam et que les hommes sont relevés dans le second Adam, qui est la personne de Jésus-Christ. Alors, on pourrait continuer comme cela. Bon, on va aller au verset 19, ça dit, « Comme par la désobéissance d'un seul homme, de qui on parle? D'Adam. Beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, de qui on parle? De Jésus-Christ. Beaucoup seront rendus justes. » Très important de faire la distinction et de regarder ça en mémoire parce que c'est quelque chose qu'on a besoin de savoir et de se rappeler. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 21 et 22, vient nous rappeler et nous dire les mots, le vocabulaire dont on vient d'utiliser. 1 Corinthiens 15, versets 21 et 22, ça dit « Car, puisque la mort est venue par un homme, » à qui on parle? D'Adam. « C'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » De qui on parle? On parle de Jésus-Christ. Et le verset 22, il dit, « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Tous ceux, tous les élus de Dieu, que Dieu a décidé de leur accorder la grâce, vont revivre en Christ. Donc, on chute en dedans le premier Adam, tous les hommes sans exception, et on est relevé par le second Adam, tous ceux qui sont en lui, que le Christ, que Dieu a décidé qui recevrait la grâce. Alors, toute l'humanité est incluse dans le péché Adam. Nous sommes tous coupables et condamnés en Adam, et nous mourrons tous en Adam. Mais, d'un autre côté, béni soit Dieu pour le deuxième représentant, le dernier Adam, qui est Jésus-Christ, qui est le Seigneur et le chef de file de la nouvelle humanité. Donc, nous, on a déjà été en Adam le premier. On en est sorti par la grâce de Dieu. On est maintenant dans le second Adam. Versets 14 à 19, on a vraiment les coupables inculpés. Chose qui est intéressante, Dieu interroge Adam, Dieu interroge Ève. Vous êtes-vous déjà demandé en lisant ce passage-là, pourquoi Dieu n'interroge pas le serpent? Bonne question, hein? Dieu n'interroge pas le serpent et il ne cherche pas à susciter en lui un sentiment de culpabilité ou de lui arracher une confession parce que lui, sa condamnation est déjà établie. C'est comme, c'est déjà fait. Il ne lui pose même pas de question, pourquoi tu as fait ça? Rien de tout. Alors, il est un rebelle récalcitrant qui est déjà exclu de la rédemption et il avait délibérément décidé d'égarer l'être humain que Dieu venait de créer. Alors, le diable n'est pas autorisé à présenter sa version des faits. Alors, dans le verset 14 et 15, il dit, « L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » On va revenir sur le verset 15 parce que c'est la première mention dans toutes les Écritures de la solution divine au problème du péché qui avait été introduit par Ève et Adam. Alors, la condamnation qui est donnée au serpent, c'est la première fois qu'il y a une malédiction dans les Écritures. Dans toutes les Écritures, ça commence là. Alors, c'est vraiment une malédiction, c'est le contraire d'une bénédiction. Alors, elle comprend deux parties. Quand on regarde le texte, il dit « Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie », verset 14. Alors, la position du serpent, à cette époque-là, peut-être qu'il pouvait se tenir verticalement, j'en ai aucune idée. Mais il dit, à partir du moment de son jugement, tu vas marcher sur ton ventre. C'est vraiment l'idée de la condamnation. Autant tu as voulu t'élever, maintenant, autant tu vas avoir. Quand on dit de quelqu'un, tu vas mordre la poussière, ben, il mord la poussière, ça veut dire, il mange pas littéralement de la poussière, il en mord pas véritablement, mais c'est une expression pour dire, tu es défait, tu as été battu. Et, chose intéressante, il lui dit aussi, voyez-vous, il s'est servi de la femme pour faire tomber l'homme, l'humanité entière dans le péché. Et qu'est-ce que l'Éternel dit, lui dit ici, sa condamnation, son jugement à lui, c'est, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est vraiment la première expression, les théologiens appellent ça le protévangile. Pourquoi pro? Parce que quand on va dire un prototype, c'est le premier, donc la première évangile. C'est comme la première mention de l'évangile dans toutes les Écritures. Le protévangile, Genèse 3:15. Alors, l'hostilité qui existait entre Dieu et le serpent, maintenant, ça va concerner tous les êtres humains. Il va y avoir une guerre perpétuelle. Le malin croyait avoir remporté une victoire facile. Il s'était emparé de nos premiers parents et avec eux, de toute leur descendance. Imaginez-vous, lui, dans son esprit, il devait se dire, j'ai réussi, il n'y a plus rien à faire. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec ça? L'humanité était ruinée, mais elle ne va pas penser à la sagesse de Dieu qui pouvait faire en sorte de prendre son fils Jésus-Christ, de l'envoyer sur terre, qui s'incarne dans une... Pourquoi qu'il dit la postérité? Il dit la femme. Alors, la solution au problème, l'entrée du problème s'est faite par la femme et la solution au problème va se faire par la femme aussi. Mais comment elle va se faire? La postérité, c'est important de distinguer que ce n'est pas nécessairement toute la postérité, de dire l'ensemble des êtres humains qui viendraient au monde de façon naturelle dans tous les siècles à venir. Ça veut dire ça, mais ça veut dire aussi ta postérité, parce que c'est défini un petit peu plus tard. Dans les Écritures, c'est qui la postérité de Ève? Quel verset qu'on peut aller voir pour prouver ça? Galates, chapitre 3. Verset 16. Très important de voir cela. Parce que Galates, où est-ce que je lis? Je le lis quelque part. Là. OK, Galates 3, verset... Excusez-moi. Galates 3, verset 16. Ça dit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Très important. Il n'est pas dit « et aux postérités au pluriel », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, et là il définit c'est qui la postérité. Il dit « c'est-à-dire à Christ ». Alors la postérité de la femme dont Dieu parlait dans ce passage-là, il faisait une référence au Messie à venir prophétiquement. Et on va voir que tout le livre de la Genèse va commencer à définir un peu comment le Messie va arriver. D'abord, par Israël, par Isaac, Jacob, Abraham, et après ça, les Écritures vont définir qu'il va être un roi, comme David. Et les Écritures, à partir du... C'est comme la Genèse, c'est comme la semence, c'est le début. Et tout au long des Écritures, l'idée de la prophétie de l'arrivée messianique future va se développer et va se préciser de plus en plus au cours de l'histoire. Et on va apprendre dans Galates 3:16, on ne peut pas se demander, quand il dit à ta postérité et sa postérité, de quoi il parle? Il parle-tu des enfants à venir ou s'il parle d'une personne? Ici, c'est clair, Galates 3:16, le Nouveau Testament nous donne l'interprétation de Genèse 3. Il dit « ta postérité, c'est-à-dire Christ ». L'inimitié entre Christ et Satan peut être plus grande que ça. Il dit « je mettrai la guerre entre la postérité de ceux qui sont tombés en Adam et la postérité de Christ qui est nous ». Il y aura toujours guerre entre les non-convertis et les convertis. Parce qu'on ne pense pas de la même façon, On n'est pas, notre vie n'est pas dirigée de la même façon qu'eux. Alors, le serpent a déjà eu sa condamnation. Maintenant, Ève, il lui dit la condamnation de Ève. Donc, quand on passe en procès, normalement, on a une inculpation et on a un jugement. Et le jugement de Ève arrive dans Genèse 3:16. Il dit à la femme, il a commencé par l'homme, il dit à la femme, « J'augmenterai les souffrances de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, il dominera sur toi. » Il y avait deux aspects dans le jugement du serpent, il y a aussi deux aspects dans le jugement d'Ève. D'abord, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. » Je pense que depuis ce temps-là, toutes les femmes qui ont eu des enfants peuvent avoir été soulagées dans leur délivrance, jusqu'à un certain point, à l'hôpital, par les moyens utilisés que par les hommes. Mais il reste que ça ne l'a pas enlevé, la souffrance. Les femmes qui sont dans la salle me regardent, puis je pense qu'ils comprennent beaucoup mieux que moi ce que je suis en train de dire, mais il reste que c'est un fait quand même. Parce que Dieu dit, à cause de ton péché, voici ce que je vais. Non, je ne t'enlève pas le privilège de pouvoir perpétuer la race humaine, mais cependant, en le faisant, tu vas souffrir. Ça, c'était la condamnation. Et l'autre, c'est vraiment, donc il y a un aspect de la condamnation d'Ève qui est par rapport à ses enfants, et l'autre aspect est par rapport à son mari. Parce que Dieu lui dit, « Et tes désirs se porteront vers ton mari, il dominera sur toi. » Dieu a établi que maintenant, l'homme aurait autorité sur la femme, mais que la femme la contesterait tout le temps. C'est ça que ça dit le texte, parce que ça dit, « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il, l'homme, dominera sur toi. » Qu'elle le veuille, qu'elle ne le veuille pas, c'est Dieu qui a prononcé la sentence, c'est de même que ça va se produire. Je sais bien qu'aujourd'hui, c'est contesté par le féminisme et toutes ces choses-là, mais comment que le féministe dirait le contraire? Moi, je dis que c'est qu'est-ce qui va s'exécuter, c'est ce que Dieu a dit. Alors, c'est vraiment le châtiment divin qui décrit que le châtiment de la femme, c'est soit l'exploitation des femmes par les hommes, et si on sait qu'il y a un thème qui a été développé par les historiens et les historiennes, c'est vraiment que l'homme a exploité la femme. Puis moi, je ne nie pas ça, là, d'aucune façon. C'est une réalité. Cependant, d'où elle vient, cette réalité-là? Elle vient de là, Genèse. Alors, donc, l'exploitation des femmes par les hommes, ou soit l'origine de la guerre des sexes, qu'on appelle la guerre des sexes. Alors, dans les deux cas, la suggestion et la lutte remplace la relation harmonieuse qu'il y avait dans l'amour conjugal. Alors, avant la chute, tout allait bien, comme on dit, dans le couple. Maintenant, il va y avoir une hostilité qui va s'installer entre les deux. Et ça continue d'exister encore aujourd'hui, à cause de la condamnation. Maintenant, l'inculpation d'Adam, le verset 17 à 19, il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. » Voyez-vous, il arrive une malédiction. Le sol sera maudit à cause de toi. Avant la chute, il n'y avait pas besoin de cultiver. Tout était à sa disposition, tout ce qu'il pouvait avoir besoin. À cause de la chute, premièrement, on sait qu'un peu plus tard, il va le mettre en dehors d'Éden, et que là, comme il lui dit, il va devoir travailler à la soie de son front pour obtenir sa nourriture. Alors qu'avant, il n'avait rien besoin de tout ça. Il dit, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Voyez-vous les malédictions qui commencent à arriver à cause de tout ça? C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Le sol devait être, et les arbres, et tout ce que l'être humain pouvait avoir besoin pour combler ses besoins, devait être dans une abondance extraordinaire avant la chute. Là, Dieu dit, maintenant, on ne marchera plus de main, il va falloir que tu travailles fort pour obtenir ce que tu... juste te nourrir, ça va être déjà te demander beaucoup d'efforts. Et là, il parle de la qualité du sol qu'il va y avoir dorénavant. Il te produira des épines et des ronces. tu mangeras de l'herbe des champs. » Et là, il lui dit, « Comment il va pouvoir se nourrir à l'avenir? C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Il est en train de te dire, tu as été pris dans la poussière, tu as été formé par la dans la poussière. Dieu dit qu'il avait créé l'homme à partir de la poussière. Et il dit, normalement, ton sort n'aurait pas dû que tu retournes à la poussière. Mais là, il dit, jusqu'à ce que tu aies la sueur de ton visage, que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Il lui rappelle son origine, mais il lui rappelle aussi qu'à cause du péché, il va retourner là où il y a... Alors que s'il n'avait pas tombé, il n'aurait pas eu cette chose-là dans sa vie. Alors Dieu attire l'attention sur la raison du châtiment, puisque tu as écouté la voix de ta femme. C'était lui, le chef de famille, et quand sa femme lui a offert le fruit défendu, il aurait dit « Non, madame. » Et il a eu la même tentation qu'elle. « Ah, mes yeux vont s'ouvrir. » « Ah, je vais avoir quelque chose de plus que j'ai pas actuellement. Ah, les mécontentements. » Les marches, il a suivi les mêmes marches que sa femme et il a entraîné toute l'humanité au complet par le fait même. Alors, là, on arrive au troisième point, le verset 15. Genèse 3, 15, très important. Retenez ça, c'est le premier verset des Écritures où on parle de la future venue, l'annonce prophétique de Jésus-Christ, on l'a vu tantôt. On pourrait, la première fois qu'on lit ça, est-ce qu'on comprend nécessairement que quand Dieu dit la phrase qui fait référence à Christ?
Non.
Moi, la première fois que j'ai lu Genèse, pas compris nécessairement ça. C'est fait, c'est quand on lit toutes les Écritures, et là on arrive à Galates, ah, ok, Genèse 3,16, la référence que tu dis, c'est Christ. Alors là, ça s'allume, ça comprend. On comprend, il est en train de dire le péché est entré dans le monde, pas à cause du serpent, à cause de votre faiblesse, de votre misère. Maintenant, je t'annonce la solution, et cette solution-là va être dans la personne de Christ, qui va venir sur la terre et qui va régler le problème que vous avez introduit dans le monde. Alors, Genèse 3, 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. » Alors, est-ce que c'est pas ça que Jésus-Christ a fait, écraser la tête de Satan? Mais il dit, « Et tu lui blesseras le talon. » Satan, sur la terre, va faire en sorte que quand Christ est venu, il lui a rendu la vie difficile. Blesser le talon, c'est sûr que ça... Si quelqu'un se fait blesser au talon par un serpent... Ça ne doit pas faire de bien si ce n'est pas une blessure mortelle. Mais il est en train de dire, la force de Christ va t'écraser la tête littéralement. Tandis que toi, tout ce que tu vas réussir à faire, c'est d'emmener une blessure. Et quand on regarde la vie que Christ a eue sur la terre, on voit que c'était définitivement l'œuvre du malin est encore là. Quand on lit les évangiles, le malin est encore présent. Et tout ce qu'il a fait, c'est d'essayer de soulever le peuple contre lui. Et vraiment, l'idée de blesser le talon, c'est vraiment, en une phrase, d'expliquer l'ensemble de tout ce qui s'est passé dans les Écritures. Alors, même ce chapitre-là, qui est un chapitre, je dirais, un des plus chapitres les plus sombres des Écritures, où on voit la condamnation de l'homme, condamnation du serpent, condamnation d'Ève, maintenant, on voit rentrer quelque chose qui est la miséricorde, et la grâce divine. Alors, le jugement contre le serpent, ça sortit d'une précieuse promesse. C'est la première lueur de l'Évangile. C'est pourquoi, comme je vous l'ai dit tantôt, les théologiens l'appellent le protévangile, donc la première bonne nouvelle. Mais quand on la lit la première fois, qu'on n'a jamais lu les Écritures avant, on ne comprend pas nécessairement que la postérité dont il parle, c'est la personne de Christ. On ne comprend pas nécessairement que c'est vraiment le premier message de l'Évangile. Alors, le livre de la Genèse insiste sur l'importance d'une postérité particulière et spéciale. Quand on regarde le reste du développement des Écritures, de la Genèse en particulier, on voit que cette promesse-là va se préciser et se développer de plus en plus. Par exemple, il va dire que la postérité va passer par Sem. La postérité va passer par Abraham, elle va passer par Isaac, elle va passer par Jacob. Et plus ça va aller, c'est vraiment comme un déroulement. Au début, c'est pas très précis. Ben, c'est très précis, mais qu'on ne comprendra pas nécessairement à la première lecture. Et Dieu va permettre que dans tout le développement de la Genèse et de l'ensemble des Écritures, qu'on voit différentes choses, différentes facettes de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ qui vont de plus en plus se préciser jusqu'à l'arrivée de Jésus sur terre. Comme quand il avait dit, par exemple, je ne sais pas, dans Michée, « Et toi, Bethléem, Ephrata, tu n'es certes pas la moindre d'entre les tribus, d'entre les villes d'Israël. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Dieu est en train de dire prophétiquement le lieu où Jésus-Christ viendra au monde. Mais des prophéties sur Christ, l'Ancien Testament en est pleine. Alors, c'est vraiment l'idée que je vous dis, que ça s'est déployé de façon systématique et de façon régulière tout au long des Écritures, jusqu'à ce que les hommes comprennent que celui qui est venu, ça a pris du temps, parce que même les apôtres, après que Christ est ressuscité, il avait été se cacher, il n'était pas sûr si c'était le Messie. Ça a pris quasiment, quand Dieu a envoyé le Saint-Esprit, qu'ils ont allumé, ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Alors que c'était des hommes qui connaissaient quand même leurs Écritures. Alors, il est surprenant que Dieu ait communiqué cette vérité en prononçant le jugement sur le diable. C'est certainement la dernière chose que celui-ci désirait entendre. Parce que quand tu es sûr que tu as eu la victoire, ah, j'ai fait tomber non seulement les deux, mais s'ils ont des enfants, la gang va être pareille. Puis là, tu te rends compte que, oups, tu n'avais pas pensé à la sagesse de Dieu, qui est capable de faire des choses que tu n'avais même pas prévues. Parce que pour lui, il pensait que probablement que sa victoire était finale et définitive, alors que Dieu lui dit, non, ça ne marche pas de même. On a une solution et la solution, c'est la personne de Christ. Autre chose que les Écritures nous présentent dans ce chapitre-là, c'est le fait que quand l'homme est tombé, la femme est tombée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des feuilles de figuier, ils ont mis ça autour de pensant se cacher leur nudité. Quand on regarde le thème des vêtements, quand on parle de la robe de justice de Christ, avez-vous une robe de justice, vous autres? On en a une, mais spirituellement. On a la robe de justice de Christ, on est revêtu de cette robe-là. Mais eux, ils ont voulu se cacher avec des choses humaines. Imaginez-vous, essayer de se faire une ceinture avec des feuilles de figuier, ça ne doit pas être trop solide. Je pense que c'est vraiment une image et un symbole de l'homme qui cherche à gagner son ciel par les œuvres. Ici, il vient parler de la robe de justice de Christ. De quoi qu'on parle quand on parle de la robe de justice de Christ? Christ, sur la croix, a payé l'équivalent de la souffrance qu'on aurait dû payer, nous, en enfer. Il l'a subi à notre place. Ça, c'est un aspect du salut. L'autre aspect, c'est que Dieu exigeait que pour vivre en sa présence, il fallait que j'aie accompli la loi, le décalogue, le 10 commandements, à la perfection, toute ma vie, sans manquer une seule fois. Y a-t-il quelqu'un d'entre nous qui a fait ça? Donc, il n'y avait personne qui aurait pu accéder à vivre dans la présence de Dieu. Pourquoi aujourd'hui Dieu considère qu'à cause de notre foi en Jésus-Christ, on utilise l'image qu'on est revêtu de la robe de justice de Christ? Donc, la vie que Jésus-Christ a faite, elle est mise sur notre compte. En théologie, on appelle ça l'imputation. Il a pris l'œuvre de Christ, de sa parfaite obéissance, comme second Adam. Lui, il l'a réussi à la perfection, et à cause de la foi qu'on a en lui, qu'il l'a fait à notre place, il dit « Oui, je te considère comme si tu avais fait ça. » Alors, Dieu nous considère comme des chrétiens, comme si on avait mené une vie de parfaite obéissance à la loi durant toute notre vie. Comme si, je dis bien comme si, c'est pas nous qui l'a fait, c'est lui, c'est Christ. Alors, la punition a été prise par Christ, l'accomplissement de la volonté divine d'exécuter la loi à la perfection est encore accompli par Jésus-Christ. Voyez-vous, quand on regarde Apocalypse, verset 7, verset 9 et 10, on pourrait prendre le thème du vêtement et développer ça au cours des Écritures. C'est tellement intéressant. comme dans, je pense dans Jérémie, on parle de Jéhovah Tsikenu. C'est le nom qui veut dire l'Éternel, notre justice. Et l'Éternel, notre justice, elle est à cause de Christ et en Christ. Apocalypse 7, versets 9 et 10. « Après cela, je regardai, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. » Et remarquez les mots qui sont utilisés. « Revêtus de robes blanches. » Est-ce qu'il faut prendre ça au sens littéral ou s'il faut prendre ça au sens symbolique? On est revêtu de robes blanches, donc la blancheur est un symbole de la pureté absolue. On est revêtu, un peu comme quand le jeune homme, il s'en va dépenser les biens, et quand il revient, le père lui dit « revêtez-le de la robe de noces ». Alors, la robe est importante, il faut l'avoir, on ne se présente pas devant Dieu avec nos propres œuvres, il faut se présenter revêtu de la robe de justice de Christ, qui est vraiment ici revêtu de robe blanche et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, ça veut dire qu'un jour on va être au ciel, on va crier, comme ça se dit, on va crier d'une voix forte, ça se dit, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. On va reconnaître donc que la source, c'est Dieu le Père, mais que le moyen utilisé par Dieu le Père, c'est dans l'agneau. Donc l'agneau, on le sait, on pourra prendre encore beaucoup d'études sur le thème de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, car il enlève le péché du monde. L'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ. On reconnaît que le salut est à Dieu le Père, mais qui a utilisé le moyen de Jésus-Christ. Alors, on peut faire plusieurs applications d'une brève étude de Genèse 3, 8 à 19. La première, c'est d'apprendre de la folie des réponses de nos premiers parents devant l'accusation divine. Contrairement à eux, reconnaissons immédiatement nos fautes en ne cherchant pas à nous excuser ou en cherchant à accuser autrui ou les circonstances. Si on lit un texte comme ça, on n'apprend rien. On n'apprend pas des principes à appliquer dans nos vies. Dans le fond, un sermon, s'il rentre par une oreille puis il sort par l'autre, là, c'est pas supposé que c'est ça que ça fasse. Alors, il dit, confessons humblement nos péchés, nous, contrairement à Adam et Ève, qui ont agi de façon un peu folle, et implorons le pardon du Seigneur sur la base de notre foi en la personne et en l'œuvre de Jésus-Christ. Deuxième application, méditons sur les justes jugements de Dieu. Ils sont toujours remplis de sagesse et de perfection. Acceptons notre condition et apprécions que l'Éternel n'a pas puni nos premiers parents, n'est pas puni nos premiers parents et toute l'humanité avec plus de sévérité. Il aurait pu les laisser de même et tout le monde aurait été en enfer pour l'éternité. Il a pourvu à une solution. Donc, le péché était d'une extrême gravité. Il aurait pu laisser aller, mais il vient d'exercer vraiment. Il aurait pu être beaucoup plus sévère. Et troisième et dernière application, plongeons nos regards sur la prophétie messianique et trouvons-y toutes nos joies et notre consolation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, après la résurrection, les disciples d'Emmaüs se promenaient sur le chemin. Ils n'avaient rien compris. Ils rencontrent un homme, là, ils disent, « Coudonc, qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem? Comment? Tu dois être à peu près le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé à Jérusalem, la crucifixion et tout ça. » Et là, il leur dit, « Commence à leur expliquer tout ce qui le concernait dans l'ensemble des Écritures. » J'aurais aimé ça, écoutez ça. Parce qu'il a dû prendre Genèse. Tout, parce qu'il a dit dans toutes les Écritures, il a dû prendre les livres un par un. Et ça, qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire? Et ça, qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire? Et ça, qu'est-ce que vous... Et ça dit qu'ils ont senti leur cœur se réchauffer en eux et qu'ils ont compris qu'est-ce qu'ils cherchaient à leur expliquer. Ils ont compris que le Messie, il l'avait devant eux. Mais sur le coup, il était là devant eux et ils ne l'ont même pas reconnu. Alors, louons le Seigneur pour sa parfaite justice, son amour, sa miséricorde et sa grâce. Amen.